Bonsoir. Gustave Courbet, peintre et révolutionnaire, tel est le thème de cet essai radiophonique en 4 épisodes que nous vous proposons, dont la première émission de ce jour nous conduira de sa naissance en 1819 à 1853, date à laquelle il est déjà un peintre confirmé, mais aussi déjà en butte à la censure et à l'opposition du système établi. Alors, Courbet, inconnu et ignoré, voire méprisé, est-il le plus grand peintre français? Peut-être, et peu importe le classement. Mais ses œuvres sont bouleversantes, c'est sûr, donc allez les voir et les revoir, tout le plaisir sera pour vous. Mais le Courbet que je vous invite à découvrir radiophoniquement est moins seulement le peintre que l'artiste engagé, le militant, l'humaniste, le progressiste, le révolutionnaire. Le mot s'impose que l'État et la bourgeoisie de son époque ont combattu et finalement tué à force d'acharnement contre lui. L'affaire de la colonne Vendôme, nous l'évoquerons longuement, surtout pour montrer comment en réalité il n'a servi que de prétexte pour écraser le militant. Bientôt, 130 ans après sa mort, la bourgeoisie et sa culture l'ont récupéré et aseptisé. Ne les laissons pas faire. Redonnons à Courbet toute sa force révolutionnaire et suivons son exemple. J'avais depuis longtemps le projet de rendre cet hommage à mon compatriote franc-comtois Courbet. Voilà, c'est maintenant fait en ces 4 émissions que je vous invite à suivre au fil des semaines à venir. Nous nous sommes largement inspirés pour réaliser cet essai radiophonique du livre « Bonjour Monsieur Courbet » de Maurice Choury, paru aux éditions sociales en 1969, aujourd'hui épuisé et non réédité à notre connaissance.
Bonjour Monsieur Courbet, comme tout un chacun, là je suis sous le charme. Car j'ai vu des peintures, des musées, des statues, et j'aime bien les femmes. Mais la tienne, mon vieux, sort tout à fait du lot, elle pourrait faire la pige. À toutes les naïades, les Vénus en maillot et autres calipiges, qu'elles soient de Mayol, de Renoir ou Rodin, il n'y a pas photo. Courbet, je te salue bien bas et salue cette dame qui offre sans pudeur ses tranquilles langueurs aux foules monotones. Elle peut bien dormir dessus ses deux oreilles, cette jolie personne. Elle a tout ce qu'il faut pour regarder tout droit dedans les yeux des hommes. Mais dans tes yeux, Courbet, a-t-elle vu l'amour qui nous laisse pantois? Courbet, je te salue, je te dis chapeau bas à ta muse de même. De cabaret ou femme de bourgeois, compagne de bohème, avait-elle du goût pour l'offense au bon goût ou pour la pose obscène? Ou bien attendait-elle simplement quelques sous de quoi payer le terme? Ou même espérait-elle en hommage au mieux qu'un coup de pinceau? Bonsoir Monsieur Courbet, comme tout un chacun, parfois je me questionne. Y a-t-il un Dieu là-haut? Qu'est-ce qu'il veut? Où on va? D'où on vient? Qui nous sommes? Tant de questions, tu vois, de commandes pourquoi de mystère à la gomme. Car grâce à toi, Courbet, maintenant je le sais, l'origine du monde est au musée d'Orsay.
Le 10 juin 1819, alors qu'elle se rendait de sa propriété de Flaget à sa maison d'Ornan pour y faire ses couches, Sylvie Oudot, femme Courbet, surprise par les douleurs de l'enfantement, met au monde, au lieu dit la Comboreau près de Chartan, un gros garçon joufflu qu'on prénomme Jean-Désiré Gustave. Le garçon fut déclaré en mairie d'Ornan. Ce qui fait que l'on ne sait pas trop s'il n'est pas plutôt né dans la maison des parents Oudot, et que l'histoire rocambolesque de cette naissance sur la route, contée partout par le grand-père Oudot, n'est pas une fable qu'il a inventée. En tout cas, disons-le tout de suite et on y reviendra, il n'est pas né dans ce que depuis les années de 1920, on a fait prendre pour sa maison natale. Il ne faut jamais prendre pour vérité tout ce qu'on vous raconte en matière d'histoire, il faut toujours aller vérifier, travailler, fouiller et démystifier tout, tout, tout.
Ah, ils nous en ont fait avaler des couleuvres, de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou, les staliniens zélés qui mettaient tout en œuvre pour vous faire signer les aveux les plus fous. Vous aviez combattu partout la bête immonde, des brigades d'Espagne à celles des maquis. Votre jeunesse était l'histoire de ce monde. Vous aviez nom Kostov, Boulandon ou Slansky. Au nom de l'idéal qui vous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Ah, ils nous en ont fait applaudir des injures, des complots déjoués, des dénonciations, des traîtres démasqués, des procès sans bavure, des bagnes mérités, des justes pendaisons. Ah, comme on y a cru, aux déviationnistes, aux savants décadents, aux écrivains espions, aux sionistes bourgeois, aux renégatitistes, aux calomniateurs de la révolution. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Ah, ils nous en ont fait approuver des massacres que certains continuent d'appeler des erreurs. Une erreur, c'est facile, comme un et deux font quatre, pour barrer d'un seul trait des années de terreur. Ce socialisme était une caricature. Si les temps ont changé, des ombres sont restées. J'en garde au fond du cœur la sombre meurtrissure, dans ma bouche à jamais la soif de vérité. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Mais quand j'entends parler le bilan positif, je ne peux m'empêcher de penser à quel prix. Et ces millions de morts qui forment le passif, c'est à eux qu'il faudrait demander leur avis. N'exigez pas de moi une âme de comptable pour chanter au présent ce siècle tragédie. Les acquis proposés comme dessous de table, les cadavres passés en pertes et profits. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. C'est un autre avenir qu'il faut qu'on réinvente, sans idole ou modèle, pas à pas, humblement, sans vérité tracée, sans lendemain qui chante un bonheur
inventé définitivement. Un avenir naissant d'un peu moins de souffrance, avec nos yeux ouverts, en grand sur le réel. Un avenir conduit par notre vigilance envers tous les pouvoirs de la terre et du ciel. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui.
Éléonore Régis Courbet, le père, né en 1798 d'une mère qui décédera en 1810, le laissant orphelin, et d'un père qui exerçait la fonction de juge de paix du canton d'Amancé et disparaîtra 4 ans plus tard, en 1814. Il était donc orphelin à l'âge de 16 ans. Il épouse à l'âge de 18 ans, le 4 septembre 1816, Sylvie Oudot d'Ornans, de 4 ans, son aînée. Les Courbet sont un couple plutôt riche de la vallée, un couple de vignerons qui, comme tels, dédaignent ceux qui ne le sont pas. Fiers, orgueilleux, excentriques et fantasques, ils s'attachaient à être des originaux, ce qui les rendait passablement antipathiques au reste de la population, qui le leur rendait bien et qui aura la rancune tenace. Le couple des parents Courbet vit dans la mésentente et passablement séparé, lui à Flaget, elle à Ornans, mais c'est elle qui gère les affaires et le travail, le père cultivant en permanence ses imaginations qui lui trottent sans cesse dans la tête. Le père de Sylvie Oudot, épouse Courbet, Jean-Antoine Oudot, avait 22 ans en 1789 et il soutint la Révolution. Homme lettré, il avait bonne réputation et entreprit le temps venu d'initier son petit-fils Gustave à la lecture avec l'Almanach des Républicains de Sylvain Maréchal et lui inculqua sa devise « Crie fort et marche droit ». De sa mère, Gustave héritera la bonté, l'amour de la musique et les dons de poésie. Mais il ne demeure pas dans ses jupes, il fuit la maison, qui retentit des cris et des vagissements de ses 4 jeunes sœurs, Zoé, Zélie, Juliette et Clarisse, qui, grandissantes, se piqueront de musique. Et il vagabonde au milieu de cette admirable nature de la Franche-Comté dont il s'imprègne, et que les chefs-d'œuvre du futur maître peintre restitueront. Au petit collège d'Ornans, tenu par un parent, l'abbé Oudot, Gustave se contente du premier prix de musique, tenant l'orthographe en piètre estime, et passant le plus clair de son temps à parcourir champs, prés, forêts et vallons. Citation : Le dictionnaire est un vieil abruti que je ne veux pas fréquenter, dira-t-il plus tard. Et il ajoute avec sa délection particulière pour les déclarations fracassantes : Au reste, il n'y a de faute possible qu'au commencement et à la fin des mots. La première et la dernière lettre sont seules indispensables. Entre elles, on peut mettre tout ce qu'on veut. Déjà, sa verve d'écolier tapageur se donne libre cours dans de burlesques narrations, et pour l'obliger à faire sa première communion, il ne faut rien de moins que l'intervention directe de Monseigneur le Duc de Rohan, archevêque de Besançon. Au Collège royal de Besançon, où Courbet entre à l'âge de 18 ans, il apprend à mépriser l'enseignement. Quand il ne dort pas sur son pupitre, il apprend le moins qu'il peut, pour ne pas, a-t-il dit, charger ma tête de choses qui m'étaient inutiles. Ses cahiers de classe se couvrent de croquis de bonhommes, d'études de main, de griffonnages, de signatures diverses, de dessins du monocycle dont il poursuivra la réalisation pendant toute son existence.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodigues, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du
La vie de collège est pour lui un cauchemar. On gèle l'hiver dans des dortoirs glacés. À 5 heures du matin, c'est le réveil au tambour. On se lève en grelottant. L'eau des cuvettes est gelée. Il faut attendre 8 heures pour avoir droit à un morceau de pain sec et à un quart d'eau. La soupe de midi, toujours la même, est répugnante. L'instruction pédante qui s'enseigne là n'est qu'une gymnastique intellectuelle destinée à vous apprendre seulement que vous ne savez rien quand vous êtes lauréat. Pour Courbet, l'enfant qui a le malheur d'être voué à ce genre d'éducation aristocratique débute dans la vie par 2 ans de travaux forcés, propres à lui donner un avant-goût de la société mécanique dans laquelle il va entrer, où, en dépit de ses aptitudes et de ses goûts, il sera voué immanquablement à la bureaucratie, à la vocasserie ou au militarisme. Le jeune Gustave aurait voulu apprendre le français et les langues étrangères, l'histoire et la géographie, les arts libéraux et mécaniques, mais non. Il lui fallait apprendre le grec, le latin et les mathématiques pour devenir militaire, état qui lui inspirait la plus vive répulsion. Aussi, avec quelques galurons de son espèce, dresse-t-il le programme des réfractaires. Ne pas se confesser, rendre les classes impossibles, faire du dessin et de la musique, écrire des vers, des romans et des lettres d'amour aux filles du Sacré-Cœur. Trouver de la nourriture, faire de la gymnastique et préparer des combats nocturnes, tendre des ficelles sur le passage du censeur, il n'a peur de personne ni de rien sur terre. Malgré toutes ces espiègleries, notre potache s'ennuie dans cette caserne qui le dégoûte et dont il menace de déserter. Mais le père Courbet nourrit des ambitions pour l'aîné de ses enfants. Il veut en faire un polytechnicien. Et nom de Dieu, que ça plaise ou non à Gustave, il restera au collège.
Où vas-tu, petit garçon? Je vais à l'école. Quand reviendras-tu? Jamais. On m'endormira, on me hachera, on me mangera, tra-la-la-la-la. Où vas-tu, petit garçon? Je vais à l'école. Quand reviendras-tu? Jamais. Qui te mangera? Un bourgeois bien gras, un marchand de soie, un plein de caca, la 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 la. Où vas-tu, petit garçon? Je vais à l'école. Quand reviendras-tu? Jamais. Mon père, es-tu là? Je prends mon cabas. Mon maître, es-tu là? Je prends mon compas. Allons dans le bois. Où vas-tu, petit garçon? À la boucherie. Quand reviendras-tu? Jamais. 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 Jamais.
« Mais en décembre 1837, Gustave écrit à ses parents. « On a voulu me forcer, et toute ma vie je n'ai jamais rien fait de force. Ce n'est pas là mon caractère. Je vous en prie, tâchez de venir dimanche, parce que je n'ose plus rester ici plus longtemps. Je déserte. » Alors, comme le bonhomme adore son fils et qu'on a les moyens, le collégien deviendra externe. On lui loue une chambre en ville à Besançon, au 140 rue de Rondeau-Saint-Quentin. Gustave ne retire aucun profit des leçons particulières de mathématiques que lui fait donner son père. Mais par contre, à l'école de dessin que dirige un obscur disciple de David, Charles-Antoine Flageoulot, on ne tarde pas à lui reconnaître le titre envié de « roi de la couleur ». Ses études de nu sont déjà remarquables, et pendant les vacances, Courbet s'essaie à Ornans et dans la vallée à des tableaux teints sur papier, tandis que Flageoulot est reçu triomphalement à Paris par son compatriote Charles Nodier, bibliothécaire de l'Arsenal. La mort de Flageoulot, qui intervient en 1840, décide le jeune homme à entreprendre le voyage de Paris. Mais le père Courbet ne veut pas entendre parler de carrière picturale et ne démord pas de ses projets polytechniciens. Gustave se laisse inscrire à l'école de droit de Paris, mais ne tarde pas à s'ouvrir à son parent parisien, professeur à l'école de droit, de sa vocation de peintre. C'est à l'Académie suisse, boulevard du Palais, que Courbet va dessiner et peindre le soir d'après modèle. C'est là qu'il fait la connaissance de François Bonvin, employé au bureau des prisons et hospice à la préfecture de police. Bonvin entraîne Courbet au musée du Louvre, où il rivalise de zèle dans la copie des grands maîtres. Les deux inséparables fréquentent à Saint-Germain-des-Prés l'atelier du Père Lapin, voisin de l'hôtel du 28 rue de Bussy, où, dans les combles, Gustave a trouvé refuge pour une vingtaine de francs par mois. Courbet est si impécunieux qu'il peint sur du papier d'emballage épais, avec des couleurs achetées au kilo au bazar, noir, blanc, ocre jaune, vermillon.
Connaissez-vous le cri du peintre ? Ce chant sourd né de la contrainte, quand le moindre ciel bleu l'éreinte, il aborde la toile enceinte, prête d'accoucher de ses craintes. Entendez-vous le cri du peintre? Il tâtonne, cherche l'empreinte, puis s'enflamme à guetter l'étreinte de la gitane en demi-teinte nue qui pose en offrande sainte. Écoutez bien le cri du peintre, sa lampe de chevet éteinte, là où la nature est défunte, traquant dans le verre de l'absinthe le contour d'une coloquinte. Imprégnez-vous du cri du peintre, de l'homme pendu à son cintre, du pillard qui ose l'enfreinte, qui fait surgir l'eau de la plainte, fait de la putain une sainte. Barbouillez-vous du cri du peintre, pour sa cible jamais atteinte, l'éclat d'un raisin de Corinthe, l'osier, l'eau, le parquet, la plainte, l'allaitement du jour qui pointe. Picassez-vous du cri du peintre, le cri de la craie qui veut vaincre, et la laine, la toux, la quinte, la quête de tout et l'enceinte qui emmure les murmures du peintre. Connaissez-vous le cri du peintre?
Ces châssis sont si grands qu'il doit se placer au quatrième rang chez le père Lapin pour ne pas gêner ses voisins. Il regarde longuement le modèle, puis se déchaîne brusquement par une esquisse rapide au crayon blanc qu'il ne craint pas de surcharger. Pour peindre, tout lui est bon. Les brosses, un chiffon, son pouce. C'est dans les doigts qu'est la finesse, dit-il. Ou le couteau à la palette, qu'il assouplit et manie avec dextérité. Sa meilleure arme pour les empattements brutaux dont il accable le support, c'est « crépi dans la pâte », fait-il avec orgueil à ceux qui s'étonnent de cette technique bien personnelle. Il s'essaie à une composition d'inspiration biblique, « Les filles de Lot », puis à une odalisque. Mais, dit-il, je m'aperçus que je malversais, qu'il était temps d'enterrer les folies amoureuses. Je résolus de faire mourir la femme qui faisait le tourment de mon imagination. Au lieu de me tourner vers le suicide, je la sacrifiais sans pitié dans un grand tableau allégorique, l'homme délivré de l'amour par la mort. La mort emportant une femme que l'amant éperdu s'efforçait de lui disputer. Bientôt, l'idée de ce tableau me parut fausse. Et je me dis quoi ? Haïr la femme ? C'est à l'ignorance et à l'égoïsme de l'homme qu'il faut s'en prendre. Laissons-la vivre. Je commençais à comprendre la tolérance et la liberté qui sont les principes du réalisme. Le gîte de la rue de Bussy est si inconfortable que malgré son endurance et sa robuste santé, le jeune rapin se voit contraint de demander à sa famille paillasse, matelas, drap et couverture. Le père Courbet, qui ne veut pas encourager son fils dans la vie de dissipation qu'il redoute pour lui dans la Sodome lutétienne, réduit les vifs de son rejeton. Pour pouvoir régler l'hôtel et l'abonnement de 6 francs par mois qui permet de peindre et sculpter d'après modèle chez le père Lapin, Gustave se contente d'un seul repas par jour. Les portraits se vendent mal. Gagner de l'argent avec des choses comme cela, il vaudrait mieux tourner une roue, écrit-il à ses parents. Les difficultés matérielles corrodent son optimisme foncier. De cette époque, 1841, date le désespéré, autoportrait qui envoûte par le regard d'une hallucinante fixité. À cette époque, Courbet se dit fouriériste, disciple de Cabet et de Pierre Leroux, et partisan de la révolution active. De la rue de Bussy, Courbet émigre en 1842 vers la rue de la Harpe, où il installe son atelier au numéro 89 dans l'ancienne chapelle du collège de Narbonne. Le mobilier sommaire de ce modeste logis coûte à l'artiste une quarantaine de francs. Le loyer mensuel s'élève à 3 francs de plus que celui de la rue de Bussy, mais l'atelier est vaste. Courbet ne sera à peu près convenablement installé pour peindre que lorsqu'il occupera, 32 rue Hautefeuille, l'ancienne chapelle des Prémontrés, abandonnée par son compatriote l'Aviron, assez grande pour contenir à l'aise la trentaine de personnages de l'atelier du peintre. Rue de Bussy, rue de la Harpe, rue Hautefeuille, on observera que notre homme navigue dans un quadrilatère de 500 mètres de côté, le centre étant la pension du père Laveur, rue des Pois de Vin, providence de la bohème désargentée, comme le célébrera le photographe Carja. C'est un bon citoyen qui nourrit ses semblables, un créancier qui fait ses crédits admirables et qui sait engraisser le poète rêveur. Pendant près de 30 années, Courbet restera le fidèle client de la pension Laveur. Quand sa situation commencera à s'améliorer, il y recevra ses amis. Le samedi, à la table d'hôte du premier étage, où l'on festoie pour 2 francs par tête, on y verra entre autres Vermorel, Marotteau, fondateur du père Duchesne, Rand et son ami, le jeune avocat Gambetta, Pierre Denis, Proto et Jean-Baptiste Clément. Aiguillonné par l'ambition, soutenu par cet irremplaçable été qu'est l'orgueil de soi-même, Courbet s'acharne au travail avec une vigueur de tâcheron musculeux. Quand la défaillance le guette, il va reprendre force et couleur dans sa verte comté, pêchant, nageant, braconnant, vidant les pins, sonnant du corps, troussant les filles, mais trouvant toujours le temps de planter le chevalet en pleine nature. Papa Courbet suit le plus souvent la valse des pinceaux en critique tatillon. « Ton gazon est absurde, mes bœufs n'en voudraient pas. » Gustave, sûr de lui-même, l'envoie au diable. Ba 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 ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Verte l'hiver, jaune l'été, il gagne dans une semaine plus d'argent qu'il n'a coûté. S'il me fallait les vendre, j'aimerais mieux me pendre. J'aime Jeanne, ma femme, eh bien j'aimerais mieux la voir mourir que voir mourir mes bœufs. Les voyez-vous, les belles bêtes, creusé profond et tracé droit, bravant les pluies et les tempêtes, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Lorsque je fais halte pour boire, un brouillard sort de leurs naseaux, et je vois sur leur corne noire se poser les petits oiseaux. S'il m'en fallait les vendre, j'aimerais mieux me pendre. J'aime Jeanne, ma femme, eh bien j'aimerais mieux mourir que voir mourir mes bœufs.
Enfin, au salon de 1844, la fougue au travail de notre jeune panne de 25 ans reçoit une première récompense. Son portrait au chien noir, reçu, révèle la puissance de son tempérament. Il domine l'accent de vérité, la saisissante impression de vie. Il y a en puissance dans cette première manifestation du fer de Courbet toutes les caractéristiques de son œuvre future, le respect du réel, l'habileté et la fermeté, la sobriété et la puissance, une véhémence sous-jacente. Ce n'est pas pour autant la fin des difficultés parisiennes et les replis sur Ornans sont fréquents, où, tout en se requinquant, il peint l'homme blessé et les amants à la campagne. Souvenir de l'heureux temps où il arpentait les sentiers avec Justine, qui, dans son cœur volage, a pris la place de Lise. De retour à Paris, Courbet recueille un poète famélique, sans feu ni lieu, auquel il offre l'hospitalité dans son atelier de la rue Hautefeuille. De vieilles frusques dans un coin, recouvertes d'un drap, et le nommé Charles Baudelaire a désormais un lit. Courbet prétend que faire des vers, c'est malhonnête. Parler autrement que tout le monde, c'est poser à l'aristocrate. Et puis, quand le poète avait absorbé son opium, il devenait horripilant avec ses visions apocalyptiques et ses divagations nébuleuses.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons. Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous épanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague où s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, où le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange, ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements. Quand vous irez sous l'herbe et les fleurs en grâce moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine
de mes amours décomposés.
Au salon de 1847, le jury refuse 3 de ses envois, ainsi que ceux d'une vingtaine d'artistes déjà réputés. Les refusés, soutenus par Daumier, Delacroix, Jules Dupré et Théodore Rousseau, se réunissent le 15 avril 1847 dans l'atelier du sculpteur Barry et décident de la création d'un salon indépendant. La révolution de février 1848 supprime le jury académique et ouvre largement les portes du salon officiel. Les 7 toiles de Courbet sont noyées parmi les 5500 tableaux exposés. Au salon de 1849, où Delacroix expose les femmes d'Alger et Millet son sommeur, Courbet, lui, expose l'après-dîner à Ornans, qui est acquis par l'État pour le musée de Lille au prix de 1500 francs. On peut s'étonner qu'une scène de la vie courante ait provoqué l'enthousiasme de Delacroix, qui déclare « Voilà un novateur, un révolutionnaire. » Courbet ne peint que ce qu'il voit, ce qui désole M. Ingres, qui déclare « Ce garçon-là, c'est un œil. Ce qu'il présente comme talent d'artiste est d'une parfaite nullité. » Courbet, qui n'en avait pas moins à son service, déclame haut et fort « Ingres, scribe, mademoiselle Rachel, fichez-moi tout cela à l'eau dans un sac, et s'il s'en sauve un, ce serait un grand malheur pour l'humanité. » Courbet fait de la brasserie Handler-Keller, au 23 rue Hautefeuille, une annexe en forme de foyer d'intelligence de son atelier, et il gardera toujours au cœur la nostalgie de ses temps bénis. C'était la jeunesse, on croyait à tout. Nous étions en République. On croyait que la liberté allait arriver. Pour l'imagination, tout était bleu. On croyait à l'amour, on pleurait sur l'infidélité, on était svelte de forme et pas difficile sur la bonne chair. Les besoins n'étaient pas grands. Avec de bons souliers et un paletot de toile blanche, un large chapeau de paille, une femme en jupon court avec un fichu était tenue, une ombrelle de 3 francs à la main, les désirs du cœur étaient comblés. Et toute la semaine, on avait la tête pleine de la partie de campagne que l'on ferait le dimanche dans les bois. Maxime Rude nous rapporte même sa vision de Courbet au retour, se payant un tour de chevaux de bois porte d'Orléans avec, dit-il, une joie d'enfant.
Tournez, tournez, bons chevaux de bois, tournez 100 tours, tournez 1000 tours, tournez souvent. Et tournez toujours, tournez, tournez, au son des hautbois. Le gros soldat, la plus grosse bonne, sont sur vos dos, comme dans leur chambre. Car en ce jour, au bois de la Cambre, les maîtres sont tous deux en personne. Tournez, tournez, chevaux de leur cœur, tandis qu'autour de tous vos tournois clignote l'œil du filou sournois. Tournez au son du piston vainqueur. C'est étonnant comme ça vous saoule d'aller ainsi dans ce cirque bête, bien dans le ventre et mal dans la tête, du mal en masse et du bien en foule. Tournez, tournez, sans qu'il soit besoin d'user jamais de nuls éperons pour commander à vos galorons. Tournez, tournez, sans espoir de foin. Des dépêchés chevaux de leur âme, déjà voici que la nuit qui tombe va réunir pigeons et colombes loin de la foire et loin de madame. Tournez, tournez, le ciel en velours, d'astres en or se veulent lentement. Voici partir l'amante et l'amant. Tournez au son joyeux de tambour. Tournez, tournez.
Néanmoins, le grand amour avec les Handler finira plutôt mal. Quand Courbet devint infidèle au lieu, les bistrotiers présentèrent l'addition, 3000 francs, qu'ils ne récupérèrent qu'après être passés par le tribunal. Aux îles Basses, dans le grenier du grand-père Oudo, le père Courbet fait aménager un atelier pour Gustave. C'est là que s'ébauchent les casseurs de pierre, et l'immense toile de l'enterrement à ornans qui seront au salon avec 6 autres toiles le 30 décembre 1850. Il y a aussi l'homme à la pipe et le portrait de Berlioz. Celui-ci l'a refusé, étant excédé d'entendre Courbet pendant les séances de pause lui infliger ses informes mélopées présentées comme des modèles de musique populaire. Il avait fini par se sauver en claquant la porte.
Paris jusqu'à Valence, j'ai fait sans lieu, sans travailler. Depuis Paris jusqu'à Valence, j'ai fait sans lieu, sans travailler. Depuis Paris, la grande ville, à Montpellier bien renommée. Depuis Paris, la grande ville, à Montpellier bien renommée. En arrivant dessus la place, j'entends les compagnons chanter. En arrivant dessus la place, j'entends les compagnons chanter. Bien le bonjour tailleur de pierre et vous le maître de chantier. Bien le bonjour tailleur de pierre et vous le maître de chantier. N'auriez-vous pas ouvrage à faire pour un compagnon étranger? N'auriez-vous pas ouvrage à faire pour un compagnon étranger? Mais si, répond le maître, pourvu qu'il sache travailler. Mais si, répond le maître, pourvu qu'il sache travailler. Prends donc ta pierre sur la place et ton marteau va la tailler. Prends donc ta pierre sur la place et ton marteau va la tailler. Il prend sa pierre et il la place, la fait pareil à du papier. Il prend sa pierre et il la place, la fait pareil à du papier. Le bourgeois dit à la bourgeoise, oh mon Dieu, quel bon ouvrier. Le bourgeois dit à la bourgeoise, oh mon Dieu, quel bon ouvrier. Nous avons notre fille aînée, s'il la veut, faut la lui donner. Nous avons notre fille aînée, s'il la veut, faut la lui donner. Il prend sa quenouillette sur le marché, s'en va filer. La fille prend sa quenouillette sur le marché, s'en va filer. Bien le bonjour tailleur de pierre, voulez-vous pas vous marier? Bien le bonjour tailleur de pierre, voulez-vous pas vous marier? Je vous remercie, demoiselle, de l'honneur que vous me faisiez. Je vous remercie, demoiselle, de l'honneur que vous me faisiez. Mais j'ai mon tour de France à faire, s'il plaît à Dieu, je le finirai. Mais j'ai mon tour de France à faire, s'il plaît à Dieu, je le finirai.
Les casseurs de pierre. Ce tableau a jamais disparu dans les bombardements de Dresde et décrit par Courbet lui-même. Là est un vieillard de 70 ans, courbé sur son travail, la masse en l'air, les chairs hâlées par le soleil, sa tête à l'ombre d'un chapeau de paille. Son pantalon de rude étoffe est rapiécé, puis, dans ses sabots fêlés, des bas qui furent bleus laissent voir les talons. Ici, c'est un jeune homme à la tête poussiéreuse, au teint bis, la chemise dégoûtante et en lambeaux, lui laisse voir les flancs et les bras. Une bretelle en cuir retient les restes d'un pantalon, et les souliers de cuir boueux rient bien tristement de bien des côtés. Le vieillard est à genoux, le jeune homme est derrière lui, debout, portant un panier de pierres cassées. Hélas, dans cet état, c'est ainsi qu'on commence, c'est ainsi qu'on finit.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
Courbet n'a pas eu à composer, il a juste su voir. C'est en passant en voiture sur la route de Mézières qu'il a surpris en plein travail le père Gaget, Dornan, qu'il connaît bien, et son juvénile manœuvre. Le bon public bourgeois du salon s'amusera devant ce spectacle digne seulement du daguerréotype. L'enterrement à Ornans provoquera un scandale encore bien plus grand. 20 mètres de toile peinte, 50 trognes, le gigantisme dans l'ignoble. C'est à vous dégoûter d'être enterré à Ornans, dira la critique. Au village, c'est différent. Tout le monde voulait en être, jusqu'aux deux chantres de la paroisse, vexés de ne pas avoir été tirés. Ils se plaignent amèrement, disant qu'ils ne m'avaient jamais fait de mal et qu'ils ne méritaient pas un tel affront. Le chef-d'œuvre bouscule les préjugés de classe, ceux-là même qui prétendent que l'art doit demeurer en marge de la politique, contestent les qualités picturales de l'œuvre. Le peintre est un révolutionnaire, donc un mauvais peintre. Maxime Ducamp proclame que Courbet peint des tableaux comme on cire des bottes. Et le cirage de bottes, ça le connaît, Maxime Ducamp. Courbet est un moment affecté, mais il riposte vite. On le traite d'artiste socialiste, alors il rétorque. Non seulement socialiste, mais démocrate et républicain. Partisan de toute la révolution et par-dessus réaliste. C'est-à-dire ami sincère de la vraie vérité. Courbet a conscience de la révolution qu'il veut accomplir en donnant à des individus ordinaires la taille et le relief que les exercices d'art imitant le passé donnaient aux dieux et aux héros. Or, dit-il, il faut encanailler l'art, et l'enterrement à Ornans, c'est l'enterrement du romantisme, c'est le manifeste du réalisme démocratique. J'ai traversé la tradition comme un bon nageur passerait une rivière. « Les académiciens s'y noient », écrit-il. Pour le salon de 1853, entre autres, il présente les baigneuses, objet d'un nouveau scandale et victime de la cravache de Napoléon III.
« dans l'eau de la claire fontaine. Elle se baignait toute nue, une faute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger. Avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu dut plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent.
Mais ces baigneuses feront aussi l'admiration du jeune banquier montpelliérain Alfred Bruyas, qui l'achète. C'est là le début d'une amitié indéfectible. Il lui écrit « Les gens qui sentent et aiment sur la terre sont si seuls que vous ne pouviez m'échapper. » Courbet lui rendra visite et la scène de la rencontre sur la route de Sète deviendra l'objet d'un tableau resté célèbre, mais qui fut en son temps brocardé de bien des côtés, La rencontre ou Bonjour Monsieur Courbet. Courbet s'en fout, il écrit « J'ai trouvé le bonheur parfait, l'ennui m'est inconnu. J'aime les choses pour ce qu'elles sont, et je fais tourner chacune d'elles à mon profit. Pourquoi chercherais-je à voir dans le monde ce qui n'y est pas, et à défigurer par des efforts d'imagination tout ce qui s'y trouve ?» À Palavas, c'est le bonheur. Courbet exulte devant la mer. « Ô mer, ta voix est formidable, mais elle ne parviendrait pas à couvrir celle de la renommée criant mon nom au monde entier. » Phrase de Courbet. On boit, on rit, on peint avec frénésie, on court les filles, Camélia, Rose, Blanche, Mina, et même une certaine mère Cadet. Mais pour son voyage en Suisse, il juge inutile de s'encombrer d'une présence féminine et d'Hitler. Sachant qu'il y a des femmes sur toute la terre, je me vois exempt d'en mener avec moi. Du reste, il y en a une qui m'attend à Lyon depuis 15 mois. Et c'est dans cette luxuriante ambiance qu'il réalise l'origine du monde.
Elle naît tout en bas d'un lieu géométrique. À la sentir couler, je me crois à la mer. Parmi les poissons fous, c'est comme une musique, c'est le printemps, et c'est l'automne, et c'est l'hiver. L'été, ses fleurs mouillées, au rythme de l'extase, dans des bras de folie, accroche les amants. On dirait que l'amour n'a plus besoin de phrases, on dirait que les lèvres n'ont plus besoin. Les sources en robe ou en guenille, celles qui sont fermées, celles qu'on n'ouvre plus, sous des linges qu'on dit marqués du sceau des filles, et ces marques, ça me fait croire qu'il a plu. Qui que tu sois, toi que je vois, de ma voix triste, micro-sillonne-toi, et je n'en saurais rien. foule dans ton phono. Ma voix de l'improviste, ma musique te prend les reins. Alors tu viens. Ta dune, je la vois, je la sens qui m'en sable, avec ce va-et-vient de ta mère qui s'en va. Qui s'en va et revient mieux que l'imaginable. Ta source, tu le sais, ne s'imagine. De ma bouche un complice estuaire, et tes baisers mouillés dérivant de ton signe ne se retourneront jamais pour voir la terre. Ta source s'est perdue au fond de ma poitrine. Ta source, je
ainsi se termine cette première émission d'un essai radiophonique de 4 émissions consacrées à rendre hommage à Gustave Courbet, peintre et révolutionnaire. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. Tout d'abord, la chanson que Pierre Delorme a écrite et qu'il interprétait, « Bonjour, Monsieur Courbet ». Puis c'était Jean Ferrat qui interprétait sa composition « Le bilan ». Ensuite, vous avez entendu le texte de Jacques Prévert, « Le cancre », mis en musique par Joseph Cosma et interprété par Raymond Voya. Puis, c'est Brigitte Fontaine qui, sur ses paroles et sur la musique de Daniel Valencien et Philippe Maté, interprétait un extrait de sa chanson « Où vas-tu, petit garçon ?». Ensuite, c'est Francesca Solville qui, sur les paroles d'Alain Leprest et la musique de Christophe Gracien, interprétait le peintre. Puis vous avez entendu Marcel Amont dans sa version de la très ancienne chanson de Pierre Dupont, « Les bœufs ». Ensuite, Léo Ferré, sur sa musique et sur les paroles de Charles Baudelaire, interprétait une charogne. Puis c'est James Olivier qui, sur sa musique et sur les paroles de Paul Verlaine, interprétait Chevaux de bois. Ensuite, la bamboche interprétait le traditionnel Le tailleur de pierre. Puis c'est Georges Brassens qui successivement interprétait deux de ses chansons, Pauvre Martin, puis Dans l'eau de la Clairefontaine. Et enfin, Léo Ferré, sur ses paroles et musiques, interprétait sa composition Ta source. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre cette grande saga de Gustave Courbet, qui nous mènera de 1853 à la période de la Commune. Bonsoir.
Thank you.